prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, Marie de Nazareth.
Marie de Nazareth. Alors on sait très bien qu'à travers tous les siècles et l'histoire, eh bien c'est un sujet très controversé, mais je voudrais m'attacher simplement dans le respect de la conscience d'autrui, parce qu'il nous faut, c'est vrai, respecter eh bien ce que les autres pensent et croient. Par contre, nous ne sommes pas toujours d'accord avec les philosophies religieuses, avec des enseignements qui sont en dehors eh bien, de ce que l'Écriture, l'Évangile, en l'occurrence, nous parle, nous annonce. Alors, pour ce faire, nous allons faire donc cette lecture, nous allons lire cette lecture dans Romains, chapitre 1er, verset 18, quelques versets. Et je pense que ce sont des sujets, ce sont des enseignements fondamentaux que l'Église a besoin de retrouver, en tous les cas, où nous avons besoin de nous rafraîchir dans eh bien, ces vérités essentielles. J'ai bien dit Romains, chapitre 1er, verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voilà, que Dieu nous aide à comprendre, et si nous voulons comprendre, eh bien, nous allons nous laisser enseigner par la parole de Dieu et éclairer par le Saint-Esprit. Il y a deux expressions que je saisis tout de suite, mémorisées. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Et puis, cette autre parole, eux qui ont changé la vérité de Dieu, vous avez remarqué le verbe changer est cité deux fois, et donc il y a un changement, une modification fait par l'homme, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. J'aimerais dès l'abord donner quelques points de repère, parce que l'histoire de notre christianisme, eh bien, a aussi ses racines dans ce qui s'est passé longtemps avant nous, même longtemps avant l'histoire, notre histoire et l'histoire qui s'est finalement manifestée dans l'Antiquité et toutes sortes de choses, parce que les racines sont beaucoup plus profondes qu'on ne le pense. Alors, quelques points de repère. Nombre de religions antiques ont été peuplées par des déesses et des reines du ciel, enfin, prétention de ces religions, des faux dieux, dont l'Ancien Testament, et dont Dieu combat naturellement, eh bien, non pas la réalité, parce que ça n'existe pas, mais cette croyance déviante, donc des déesses, des dieux, des faux dieux, reines du ciel. L'histoire en témoigne, quand on jette un regard sur la mythologie égyptienne, eh bien, il y avait une déesse qui s'appelait Nit, donc la mère. Ensuite, Hathor. Alors, je vais passer très rapidement, mais c'est pour un peu enraciner notre réflexion. Parce que ce qui est aujourd'hui, ça l'a toujours été dans l'histoire de cette humanité corrompue et de cette humanité qui a quitté, qui est sortie de la pensée de Dieu. Donc, Hathor, mère du dieu Ra, on a appris ça à l'école, et le dieu du soleil. Isis, déesse du soleil. Babylone, maintenant, autre civilisation, autre empire. La mère des dieux, que l'on appelait la grande dame. Et puis, en Phrygie, Cybèle. En Grèce, Rhéa. Et puis également Artémis, ou diable, nous le connaissons, puisque l'apôtre Paul va avoir à combattre contre l'Artémis des Éphésiens. Vous connaissez l'histoire dans le livre des Actes, hein, la Diane d'Éphèse. À Rome, dans le Grand Empire, eh bien, il y avait une adoration d'une déesse qui s'appelait Bonadea, ou Miadona. En Canaan, c'était Astarté. On entend souvent parler d'elle dans l'Ancien Testament, d'Astarté, qui séduisait les hommes, qui séduisait les femmes, ou auxquelles on faisait des sacrifices et toutes sortes de choses. Et puis il y en a bien d'autres comme ça, je passe. Le contexte est saisissant avec la religion monothéiste des Juifs. Il n'y a aucune trace de demi-dieu dans la foi des Juifs, la déesse, de déesse ou de reine du ciel vénérée. Ils en sont fabriqués, mais Dieu, avait mis en garde les Hébreux contre cela. Le christianisme apostolique, le nôtre, confesse un seul Dieu. Un Dieu créateur qui se révèle au travers d'un seul médiateur, Jésus-Christ, Sauveur et du Saint-Esprit. Ce sont les bases. Les évangiles ne font aucune mention d'intermédiaire, d'auxiliaire, d'une quelconque hiérarchie qui arracherait à Dieu ses faveurs et ses exaucements. Vous ne pouvez lire le Nouveau Testament en long, en large et en travers, vous ne trouverez aucune preuve finalement, de tout ce qui a été inventé par la suite. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul, convaincu, comme il pouvait l'être, rempli de foi et de l'esprit, écrira en lettres de feu, il dira ceci, « Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, fait homme. » Toujours dans l'Évangile, sa rigoureuse simplicité présente un seul chemin, une seule et unique vérité, un seul salut qui offre la vie et la vie éternelle. Donc, Jésus va donner des images très fortes. Il dira, il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a qu'une seule lumière. Il n'y a qu'un seul bon berger. Un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est l'Évangile. Nous disons naturellement que nous croyons à tout cela parce que c'est la base de notre foi. De ce retour à la foi que nous avons découvert, et bien dans la lecture de la Bible. Donc, Jésus est Jésus seul, et Jésus tout seul, uniquement, comme relation que nous pouvons avoir avec Dieu. 5 siècles de christianisme se sont écoulés depuis que Jésus est ressuscité et est monté au ciel. Donc ça va jusqu'à à peu près 5e siècle de l'histoire du christianisme. Et nous voyons qu'après ces 5 siècles, l'au-delà chrétien, entre guillemets, s'est peuplé à nouveau de déesses et de pseudo-divinités aux noms familiers, et les hommes christianisés de l'époque replongent tout à nouveau dans l'obscurantisme, dans la mythologie, dans les superstitions ancestrales au fur et à mesure que les temps de la fin se rapprochent. Ça, c'est assez troublant, parce que Jésus est venu, Jésus a parlé, il nous laissait sa parole. Il l'a attesté par sa crucifixion et sa résurrection et le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et on s'aperçoit que ces 20 siècles de christianisme ont vu véritablement la mise de côté de cet évangile tout simple pour, soi-disant, entre guillemets, l'enrichir ou l'ennoblir, je ne sais pas, avec toutes sortes de rajouts. On a retranché, on a ajouté. Et c'est ce qui donne finalement ce que nous connaissons dans cette chrétienté des derniers temps, où les gens ne savent plus véritablement à qui se vouer. On le dit, à quel saint se vouer, mais il ne s'agit pas de se vouer à un saint ou à une sainte, il s'agit tout simplement de se tourner vers Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, parce qu'il est le seul sauveur. Une des plus grandes erreurs sorties de l'imaginaire humain, issue du cœur même d'un christianisme décadent, la Bible lui donne un nom, apostat, c'est-à-dire le rejet de la vérité, a été, et passez-moi, j'affirme, est encore la prééminence rédemptrice à travers des pouvoirs et des mérites accordés à Marie, Marie de Nazareth. Marie, mère de Jésus. Je souligne bien mère de Jésus. Pour ceux qui ont fait les cours, hein, on dit autre chose. Mère de Jésus. Autour de son culte, son adoration des hommes, ses sanctuaires, nombreux dans le monde, sa médiation, donc son intermédiaire entre finalement l'homme et puis Dieu, qui a donné, je vais devoir dire le mot, qui a donné une idolâtrie nommée Mariolâtrie. Mariolâtrie. Je dis bien, je le répète, c'est dans le respect de la conscience des uns et des autres. Et je veux respecter la conscience des uns et des autres, la conscience religieuse. Mais une chose qui est certaine, c'est que là où nous sommes protestants, et là où nous protestons, c'est l'altération de la parole de Dieu, de l'évangile qui nous a été donné, pour en faire ce qu'on a voulu. Alors nous revenons à la source. Parce que cette mariolâtrie est une forme maladive de la pensée théologique déviante. Alors, je m'exprimerai comme le livre de l'Ecclésiaste dit, rien de nouveau sous le soleil. Quand on sait qu'Israël, jadis, dans son histoire, s'est donné contre l'avis formel de Dieu, contre l'interdiction absolue de Dieu, une divinité féminine à adorer, que les Juifs appelaient déjà, à l'époque, curieusement, la Reine du Ciel. Vous avez un texte, vous avez plusieurs textes dans le livre de Jérémie. J'aimerais finalement, eh bien, que nous jetions un petit coup d'œil, parce que ce qui est dit, ça mérite d'être vérifié. Dans Jérémie chapitre 7, il est dit ceci au verset 8. En ce qui concerne cette adoration à cette fameuse reine du ciel, reine de l'Antiquité, reine des pays païens, de pays de Canaan, mais dont les Israélites avaient été complètement absorbés dans tout cela. Alors, dans Jérémie chapitre 7, et au verset 8 à 10, il est dit ceci, « Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi, dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans ma maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. » dira le prophète Jérémie de la part de Dieu aux Israélites. Au verset 16, il est dit, « Mais toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pas pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas d'instance auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas qu'ils se font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel » et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter, dit Dieu. Au chapitre 44, toujours du livre de Jérémie, parce que c'était véritablement eh bien, une conception religieuse en vogue à l'époque, et ce qui touchait le peuple de Dieu, et au verset 17 à 19, il est dit cette parole, « Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. » Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous éprouvions point de malheur. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Alors on s'aperçoit qu'il y a là quelque chose de très pervers. Pour le peuple juif, c'est qu'ils ont abandonné Dieu pour servir un faux Dieu, et qu'à ce moment-là, eh bien, il leur arrive toutes sortes de malheurs, et ils se disent, eh bien, parce que nous avons arrêté de lui offrir de l'encens et de lui offrir des offrandes, c'est pour ça que tous les malheurs nous arrivent. nous atteignent. C'est complètement l'inverse qui se passe. Parce que la bénédiction de Dieu, elle était donnée par la fidélité au Dieu d'Israël. Et eux, ils se sont complètement mépris en disant, mais ça devient à ce moment-là de la superstition. Une superstition extrêmement grave. La parole de Dieu nous prévient que la fin des temps seront marqués précisément par une fausse adoration, un détournement. L'apôtre Paul le souligne à nouveau. Dans les derniers jours, les hommes auront l'apparence de la piété, on l'a vu dans Jérémie il y a un instant, hein, l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Et de quelle force s'agit-il? De quelle force est-il question quand Paul écrit cela? La validité de la foi, l'honneur dû exclusivement par Jésus-Christ, à Dieu par Jésus-Christ, c'est notre soumission totale et absolue à ce Sauveur et à ce Seigneur, c'est la reconnaissance comme étant la vérité de ce qu'il nous dit dans les Écritures. Or, là où l'Écriture ne dit rien, il ne faut pas inventer, il ne faut pas broder de toutes pièces une légende, mariale soit-elle. C'est clair ? Et c'est facile à comprendre. Nous n'avons pas à rajouter à l'Écriture ce qu'elle ne nous dit pas. À part la médiation de Jésus vers notre Père Céleste, eh bien, il n'y a rien d'autre. Et les hommes théologiens, pères de l'Église, se sont dit, eh bien voilà, il faut rajouter, il faut dire ceci, il faut affirmer cela, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et ça donne une religion, ça donne la religion chrétienne, le christianisme d'aujourd'hui, où les gens ignorent complètement et totalement l'Évangile. Ils en connaissent tout simplement que le titre, et de la Bible, ils n'en connaissent que la couverture. Je suis désolé de le dire, mais le contenu dans l'esprit, c'est terrible. Même si dans chaque foyer, il y a une Bible. Mais il ne s'agit pas d'avoir une Bible, il s'agit de la lire, et de la vivre, et de la croire. Parce qu'autrement, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça, c'est les résultats de notre christianisme depuis 2000 ans, où les hommes se sont complètement retirés de Dieu, se sont véritablement et bien égarés dans toutes sortes de choses, alors que il suffit tout simplement de revenir à cette eau pure qui jaillit de la source, c'est-à-dire à la personne de Christ. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, il est dit ceci, c'est Paul encore qui déclare, verset 4, il nous est dit tout simplement de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Et qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que les hommes ont fait depuis des siècles et des siècles? Au lieu d'annoncer la simplicité de Christ, ils ont annoncé toutes sortes d'autres choses qui n'avaient plus rien à voir avec l'Évangile, contredisant l'Évangile. Mais rien des nouveaux, puisque nous savons que quand Jésus a fait son apparition en Judée, en Palestine, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit aux pharisiens? Il leur a dit, vous avez changé les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Vous avez altéré la pensée de Dieu, qui est une pensée de salut, une pensée de bonheur, une pensée de bénédiction pour l'homme, et vous l'avez égaré dans toutes sortes de choses. Ah, certes, les pharisiens, les scribes, avaient eh bien, mis toute une foule eh bien, là, de commandements, toutes sortes de choses. Et ils le faisaient avec méticulosité, avec beaucoup de précautions, et beaucoup d'une grande conscience, nous pourrions dire, mais une conscience religieuse, pas une conscience spirituelle, dans l'intelligence de l'esprit. Et les gens fonctionnent comme ça. Alors ça devient un devoir, quelquefois ça devient même un devoir, je pourrais dire, là, tyrannique même pour certains. Donc, c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Et c'est dans cette liberté que nous devons pouvoir nous approcher de Dieu, et bien simplement pour le louer, pour l'adorer, et pour lui rendre le service, l'honneur qui lui est dû. Ce qui revient à dire que tout ce qui contredit, tout ce qui appauvrit et édulcore la vérité biblique et évangélique, et la Bible elle est diffusée maintenant, fort heureusement, dans toutes les religions chrétiennes, alors tout ce qui finalement entache la vérité biblique et évangélique est malsain, et j'ose le dire, ce n'est plus la foi. J'aurais tenu ces propos il y a 4 siècles, vous veniez à mon bûcher. Dieu merci, ça ne flambe plus. Il faut que le cœur flambe, en tous les cas, pour la vérité. Qu'il brûle pour la vérité. Ça, c'est une chose. mais des hommes et des femmes par milliers ont été persécutés à outrance, ont été brûlés, ont été écartelés, ont été envoyés dans les galères, à cause de ce que je dis, hein, tout simplement. Merci Seigneur de ce que nous vivons et nous pouvons bénir Dieu de vivre dans un pays où il y a des lois et la liberté de conscience. Dans Matthieu, c'est Jésus qui nous dit ceci, « Ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux, la seule, qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors dire « Seigneur, Seigneur », le dire, eh bien là, des dizaines, des centaines de fois, dans les prières, récitations, des redites et toutes sortes de choses semblables, excusez-moi, mais une chose qui est certaine, c'est que ça, ça ne sert à rien. Il faut voir la base, il faut voir le fond. Et ce n'est pas le mot, c'est véritablement la position de notre cœur. Et puis, il y a cette parole qui est au cœur même de notre méditation ce matin, quand nous savons et nous connaissons la référence, Jean 14, verset 6, quand Jésus déclarera à la face du monde entier, et sa parole continue à pénétrer partout, quand il dit « Mais je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors est-ce que c'est clair? Il n'y a rien de plus simple. Je sais que je parle à un auditoire converti, hein. Vous n'allez pas me dire le contraire, parce que c'est Jésus qui l'a dit, alors là vous prenez des risques, hein, mais bon. « Je suis le chemin, alors suivons-le. Je suis la vérité, croyons-le. Je suis la vie. » Acceptons-la,
amen.
Puisque c'est lui qui est. Donc cette parole de Jésus exclut un autre moyen de nous approcher de Dieu, et hors ce chemin, hors cette vérité, hors cette vie, il y a un risque d'égarement, de fausses croyances et d'illusions. Je vous dirais qu'il y a quelque chose qui étreint mon cœur, c'est que je suis issu d'une certaine religion que vous connaissez naturellement, et étant le seul à être converti à Jésus-Christ, quand je vois tout ce qui se passe par rapport à mes sexes co-religionnaires, je me dis, mais ce serait si simple qu'ils puissent croire en Jésus et venir tout simplement à se convertir, demander pardon de leurs péchés. Mais quand je vois le labyrinthe dans lequel, le labyrinthe doctrinal, tout ce qu'il peut y avoir dans ce chemin obligé, obligatoire, je me dis, mais Seigneur, il y a quand même un esprit derrière. Jésus le dira, non, c'est pas Jésus, c'est Paul, je rectifie, en Thessaloniciens, puissance d'égarement pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité dans leur cœur. C'est terrible cette parole. C'est affligeant. Dans les faits, qu'en est-il? Jésus a toujours souligné une piété intérieure, et ça nous a été rappelé sous une forme de louange et de prophétie ce matin, une piété spirituelle. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Nous n'avons pas besoin d'effigie, nous n'avons pas besoin d'un support matériel sensible pour dire, eh bien maintenant je m'approche de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous approchons de Dieu, c'est Jésus-Christ qui s'est approché de nous. Il n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous par le Saint-Esprit.
Amen.
Et par sa parole vivante. Alors les vrais adorateurs, eh bien, ce sont ceux-là. Des religions humaines où Marie trône en lieu et place de Christ et proposant une dévotion extérieure. L'apôtre Paul, pour parler encore de lui, écrira dans Colossiens que ce genre de démarche vers Dieu, c'est tout simplement du mysticisme, mystique, mystère. Et pour un chrétien, il n'y a plus de mystère, puisque nous connaissons maintenant, en partie, naturellement, la vérité. Alors, on attire les gens, justement, dans une forme de mystère autour de ce personnage dont nous parlons, l'humble Marie de Nazareth. Je dis bien, femme parmi les femmes, et nous allons voir la mission que Dieu lui a réservée. Alors, nous voyons à ce moment-là que ces religions donc, qui proposent cette dévotion extérieure faite de prestigieux pèlerinages, quasi sentimentaux, émotionnels, d'offrandes de cierges, de fleurs, de litanies, de sacrifices, aidés aux lieux qui lui sont dédiés. Il n'y a pas un département, il n'y a pas un canton, il n'y a pas une commune où il n'y a pas des hauts lieux dédiés à Marie de Nazareth. Il y en a partout, hein. Il y a des régions, il y en a plus que d'autres. Hein. Au fil des siècles, le culte marial devenu et devenu si prédominant dans ce qu'il est convenu d'appeler la catholicité, ou l'orthodoxie, c'est-à-dire l'Église chrétienne d'Orient, les orthodoxes, que l'on passe sous silence la personne centrale, les faits, la vie, les paroles de Jésus. Et tout cela promu à nous faire croire à cette parodie du verset Jean 3,16, c'est comme si Dieu s'était trompé, il avait fait une erreur, et dans Jean 3,16, ça pourrait être ceci, car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné Marie, afin que quiconque croit en elle ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vraie parole qui est dite, c'est que Dieu a tant aimé les hommes, dans leurs erreurs, dans leur obscurantisme, comme nous l'étions nous-mêmes auparavant, eh bien, Dieu a donné Jésus-Christ. Il a donné à la crucifixion Jésus pour que nous croyions en lui, que nous ayons la vie éternelle. C'est ça la version réelle. Aurait-elle été crucifiée, Marie ? Elle était certes à la croix, mais elle était au pied de la croix, elle n'était pas sur la croix. Serait-elle ressuscitée, comme le prétend ? Aucune trace dans le Nouveau Testament. Aucune trace. Un événement comme ça. On parle de la résurrection du fils de Naïm, la veuve. On parle de la résurrection de Lazare. On parle d'autres résurrections, d'Orcas, par exemple. Mais imaginez-vous que ce soit le fait de Marie, on l'aurait su. On nous dit qu'elle a été élevée au ciel. La déification de l'humble Marie de l'Évangile est allée jusqu'à déclarer son immaculée conception. En 1854, il a fallu attendre 1854, c'est-à-dire il y a un siècle et demi, c'est le pape Pie IX qui a déclaré qu'elle était immaculée conception. Je vous dirai qu'en 1858, il y a eu les apparitions de Lourdes qui déclaraient immaculée conception, 4 ans après cette déclaration du pape. Bizarre, étonnant. Et vous savez ce qu'il en est de ce haut lieu dans notre pays. Son assomption, c'est-à-dire qu'elle serait montée au ciel, parce que hier. Donc, 1950, c'est récent, 1950. Et encore plus récent, sa co-rédemption déclarée par le pape Jean-Paul VI en 1968. Là, c'était la Révolution. Donc, ce sont des choses récentes. On a ajouté, mais on ne trouve aucune trace, aucune bribe, finalement, de véracité ou d'authenticité dans les Écritures. Alors, coopérant avec Jésus au salut du genre humain, c'est Jésus le sauveur, et je tiens à le dire. On est sauvé par Jésus-Christ, on n'est pas sauvé par quiconque d'autre. Les hommes l'ont décrété ainsi, mais ce n'est pas tant, ce n'est pas ce que nous dit l'Évangile, et il importe d'urgence de vérifier dans la Bible, c'est ce que nous allons faire brièvement, ces allégations et ces prétentions romaines. Or, depuis toujours, Dieu fait cette déclaration solennelle: je ne partage pas ma gloire avec les idoles. Et ça, c'est pas nouveau. Parce que ce qui est ôté à Dieu est de même ôté à Jésus, dont l'Esprit proclame: voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et qu'est-ce qu'il dit après? Écoutez-le. Il nous a pas dit d'écouter quelqu'un d'autre. Écoutez-le, en qui j'ai mis toute mon affection. Il est loin de Dieu pour le salut de l'humanité, le salut des hommes. Ainsi donc, quand l'homme dresse un écran, un voile, et établit un substitut, il prend à Dieu pour le donner à la créature mortelle, ce qui a fait dire à l'apôtre Paul dans le texte que nous avons choisi tout à l'heure: ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ce n'est pas écrit pour rien tout cela. Je ne voudrais pas faire de l'anticatholicisme primaire, hein, ce n'est pas mon style, franchement. Mais je voudrais quand même ramener, pour des gens sincères, pour des gens qui aiment la vérité, qui aiment Jésus-Christ, ramener eh bien, la parole de Dieu, la rétablir dans les vies, dans les cœurs. C'est comme ça que le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas autrement. C'est de l'évangélisation que nous faisons en quelque sorte. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Même Marie fut-elle la plus extraordinaire de toutes les femmes, et je vais vous en dire quelques mots. Ouais. ou une des femmes les plus extraordinaires dans l'histoire biblique. Elle demeure une créature qui plus est mortelle et pécheresse. Quand on lit ce cantique dans le début de l'évangile de Luc, que l'on a appelé, que la tradition appelait le Magnificat, elle dit « J'exalte mon Sauveur ». Alors si elle a besoin d'un Sauveur, c'est qu'elle est comme nous, parce qu'autrement on ne dit pas. J'exalte mon Sauveur, mon âme exalte mon Sauveur, vous le retrouverez dans Luc. Une question subsiste, d'importance. Par quelle manœuvre, dans l'histoire des siècles, en est-on arrivé là ? Détrôner Jésus. Le trône de Jésus, c'est une couronne d'épines, et son trône, c'est une croix. Sa couronne, c'est d'épines, et le trône, c'est la croix. Comment on est arrivé à le détrôner ? Qui aurait voulu prendre sa place à ce moment-là ? Le Messie Sauveur, on lui a substitué sa mère. Et Dieu a voulu que le Messie Sauveur passe aussi par la filiation humaine de la naissance, donc d'avoir une mère. En la présentant à la dévotion des foules, sous les auspices de la mère d'un roi inaccessible, ce Jésus Tout-Puissant perdu dans le ciel et dans les temples célestes, alors en la présentant comme une mère toute-puissante, à la tendresse infinie, sans péché, eh bien, de pouvoir dire aux hommes qui l'invoquent, eh bien, c'est elle qui va infléchir les rigueurs divines. Parce qu'on a toujours présenté Dieu comme un père fouettard, comme un Dieu sentencieux, comme un Dieu qui règle les comptes de l'humanité, ça c'est comme ça qu'on l'a présenté. Alors il fallait bien qu'il y ait un intermédiaire en disant, mais regardez cette grâce, regardez cette bonté infinie, regardez ce miracle de l'amour de Dieu. Mais le miracle de l'amour de Dieu, c'est Jésus, c'est pas Marie. Alors, à travers les prières qui lui sont offertes par son intermédiaire, un intermédiaire que nous voulons, qui a été présenté comme maternel, est-ce que ça rassure hein ? Tout ce qui pouvait être invoqué devant Marie ne pouvait être refusé. Si Jésus vous refuse, Marie va vous l'accorder. C'est comme ça qu'on me l'a présenté. Hein. J'ai fait quand même quelques années d'instruction en ce domaine, avec beaucoup de confusion, avec beaucoup de difficultés après pour véritablement pas franchir et venir à la lumière et à la vérité. Alors nous savons de quoi nous parlons, naturellement. Ce processus, à la logique douteuse, serait-il basé non sur la seule faveur et qualité requise, c'est-à-dire la foi, mais ce genre de démarche dans laquelle on l'a encouragé les hommes à aller vers Marie, est beaucoup moins noble, celui d'une sorte de favoritisme. Comprenez ? Un jeu trouble d'influence diplomatique et céleste. Alors comme c'est mystérieux, ben ça reste mystérieux. Et puis voilà, c'est comme ça que les choses ont été présentées. Et les hommes, malheureusement, à défaut d'avoir la connaissance de l'Évangile, eh bien ont cru que c'était la vérité. Lisez la Bible, que les hommes, que le monde entier lise la parole de Dieu. Alors là, je peux vous dire que les yeux vont s'ouvrir et les cœurs également. Comme cela nous est dit également, le voile va tomber. Et c'est comme ça qu'on se convertit, c'est comme ça qu'on se repent. Et la repentance, c'est pas seulement la repentance de l'adultère ou d'avoir été un menteur ou un voleur. La repentance, elle porte aussi de s'être laissé emporter par des choses qui nous ont séduites, qui ont été véritablement de fausses doctrines dans lesquelles nous avons cru mordicus et qui n'étaient qu'une fausseté et une inspiration qui ne venait pas de Dieu mais qui venait d'ailleurs, de l'autre, d'un monde de ténèbres, se servant de l'occulto-religieux pour captiver les hommes et en faire, eh bien, c'est dominé. Jésus de dire, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il n'a jamais été dit de demander par sa mère. En mon nom, je le ferai. Le seul principe enseigné dans l'Évangile est celui de la foi personnelle et non du mérite et des bonnes œuvres. Alors que la doctrine dont nous parlons, eh bien, c'est une doctrine qui est basée sur le contraire, la doctrine des bonnes œuvres et du mérite. Je fais donc, je vais recevoir parce que je le mérite. Alors que l'apôtre Paul a bien marqué les choses d'une manière très claire dans Éphésiens chapitre 2, quand il est dit ceci, c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est une grâce de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Les choses sont fondées. Quelle différence avec Jésus qui se laisse approcher de tous, accueille à tout moment et dont le message proclame « Venez à moi ». Vous tous, ou encore, laissez venir à moi les petits-enfants. Et ce n'est pas seulement les petits-enfants des hommes, c'est aussi les petits-enfants qui ont un cœur âme, des hommes, des femmes qui ont un cœur âme, et qui soupirent et qui aspirent après la vérité de Dieu, qui ont faim et soif de lumière et de vérité, de cette parole, de ce pain divin. Et nous remarquons qu'autour de Jésus, dans l'Évangile, si nous le suivons quelque peu, il n'y a pas d'agent plénipotentiaire, hein. Il n'y a pas d'intermédiaire pour dire, ben voilà. Pas du tout. Si Marie pouvait parler aujourd'hui, alors l'invoquer, si elle pouvait nous répondre à nos prières, l'invoquer serait ce que l'on appelle cette doctrine occulte que l'on appelle la nécromancie. Marie est morte, hein. Et je vous annonce son décès. Elle est morte depuis très longtemps. Donc invoquer un mort, c'est de la nécromancie. Comme tout le reste, finalement, de cette doctrine qui amène les gens à adorer les saints. Parce que dans Deutéronome, vous connaissez le texte, il nous est dit « Tu ne voqueras pas les esprits des morts ». Et combien de gens aujourd'hui dans notre monde vont sur les cimetières, invoquent ceci, cela, etc. Seigneur, éclaire-les. Montre la vérité qu'elle n'est pas auprès d'une tombe, ou qu'elle n'est pas auprès de prétendus hommes qui auraient eu du renom ou un nom, mais elle est auprès de Jésus. Parce que c'est lui qui exauce les prières. Alors, moi je dis que si elle pouvait parler, Marie, ne démentirait-elle pas vigoureusement tout ce qu'on a voulu faire, dire, et faire ce qu'elle n'a jamais fait, ni dit ? L'humble Marie de Nazareth nous rappellerait sûrement les seules et rares paroles sorties de sa bouche aux noces de Cana. Quand elle a voulu s'immiscer quelque peu dans cette belle fête de mariage, parce qu'il n'y avait plus de vin, elle s'est tournée, plus de vin, elle s'est tournée vers son fils en disant « Ils n'ont plus de vin ». Elle a dit ça. Elle n'a pas demandé autre chose. Et comme Jésus a repris sa mère, eh bien... Elle a désigné son fils à ce moment-là, elle a désigné Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Faites tout ce qu'il vous dira. Ouais. C'est lui, le chef. C'est lui qui nous dit ce que nous avons à faire, c'est pas Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est sans équivoque concernant la puissance, l'autorité et le pouvoir de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et à nul autre. Quelle meilleure preuve avons-nous, ou quelle meilleure preuve avons-nous besoin qui atteste le désir de Marie de rester dans l'ombre et dans la discrétion ? On peut admirer cette femme parce qu'elle est humble et douce de cœur. Avait-elle entendu les paroles de la bouche de son propre fils ? Par ailleurs, la tradition appelle Marie Mère de Dieu. Et dans ce cas, pour échapper à une certaine forme d'absurdité intellectuelle, cérébrale, comment se peut-il que Dieu ait une mère, donc un commencement, ce qui suppose une naissance, par déduction logique, le créé, c'est-à-dire Marie, Marie a été créée, Marie, le créé, aurait enfanté l'incréé, Dieu. Alors, vous viendrez me voir après le culte et vous me l'expliquerez, vous allez avoir du mal. On nage dans la spéculation et l'extravagance, mes frères et sœurs. Il nous faut de l'intelligence et Dieu nous donne l'intelligence spirituelle pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et il faut lire la Bible et demander à Dieu qu'il nous donne la compréhension de sa parole, mais dans l'esprit, pas selon la lettre, mais dans l'esprit. Alors, une telle doctrine n'est pas recevable pour le sens commun, le bon sens, parce que on sait très bien dans la nature qu'une mère ne peut exister qu'avant son fils. Ça va, vous suivez ?
Oui.
C'est pas trop difficile, là. Qu'une mère ne peut exister qu'avant son fils, alors cette application de mère de Dieu suppose que Marie aurait été, suivez bien, aurait été avant celui qui a dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Ou tout simplement l'affirmation prophétique dans Ésaïe, de toute éternité je suis Dieu. De toute éternité je suis Dieu. Alors c'est vrai que c'est... Comment les hommes intelligents ont pu inventer de telles choses ? Et c'est un discrédit total. Alors on comprend maintenant, quand les gens commencent à réfléchir en lisant la Bible, on comprend que les gens ne disent « ne me parlez plus de Dieu et ne me parlez plus de la religion ». C'est évidemment. Les gens en ont une répulsion de tout cela. Ceci, ce n'est pas un mystère. L'Église l'a appelé un saint mystère. Alors arrêtons, lisons la Bible et comme ça, ce ne sera plus un mystère. Mais assurément, c'est la plus funeste et la plus troublante des confusions qui a fait que des millions et des millions, et je dirais des milliards d'âmes depuis l'avènement du christianisme il y a 2000 ans, des millions d'âmes en toute bonne foi, et là encore, je respecte, en toute bonne foi, se sont courbées dans la poussière auprès de la Madone de Rome. La même déesse que la Magna Mater dont nous avons parlé tout à l'heure, ou la Bona Dea de la mythologie romaine. Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'il y ait cette piété, cette dévotion, alors que Jésus nous a dit la vérité? Et il dira, mais je suis la vérité. Alors c'est toujours la même histoire. Parce que les générations passent et on ne tient pas compte de l'histoire et des erreurs de l'histoire. On est prêt à faire la même chose. Et les hommes fonctionnent dans notre christianisme et notre chrétienté d'aujourd'hui, ils fonctionnent encore avec la tradition. Ce n'est pas la tradition que Dieu nous demande de respecter, c'est sa parole. Toujours la même histoire. Parce que le fond ne varie pas dans tout cela. Sinon les noms et les apparences christianisées. Les déesses et les faux dieux de l'Antiquité, Canaan, l'Égypte, les empires de cette époque, le christianisme est passé derrière, il a gardé les mêmes lieux, il a changé les noms, et ça fait la même chose. Ça fait la même chose. Et vous ne croyez pas que dans notre pays, dans notre région, la Bretagne, c'est un pays celtique, on a gardé les lieux. Très souvent, des églises sont bâties sur d'anciens temples païens. Hein. Et puis, on a mis des noms nouveaux, c'est tout. On a changé les pancartes. Hein. La Marie de la dévotion n'a pas le moindre lien avec celle de l'Évangile, je tiens à l'affirmer. Laquelle, Marie de Nazareth, a eu pour mission l'unique privilège. Et là, nous arrivons à ce qui est beau chez cette femme. L'unique privilège de concevoir le Fils incarné de Dieu. Je dis bien incarné de Dieu. Point final. Rien d'autre dans la Bible. Tout le reste est une imposture. D'ailleurs, très vite, elles se font, Marie de Nazareth se font en arrière-plan, laissant toute la place à Jésus dans les récits évangéliques, et doit et va disparaître aussitôt à la première page du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 1er, livre des Actes des Apôtres, le livre de l'histoire de l'Église, eh bien, à la première page de ce livre qui est le livre d'histoire, son nom est mentionné et après il ne sera plus mentionné du tout. Alors, est-ce que l'on peut faire une doctrine? Par contre, Jésus est partout. Il est dans le ciel et sur la terre. Il est partout. Vous vérifierez, hein, la dernière fois où on fait mention de Marie, c'est tout simplement, eh bien, dans le livre des Actes. Tout ce que la théologie et la dévotion ont voulu faire d'elle, c'est-à-dire sainteté, son rôle, ses titres extravagants, reine du ciel et puis tout le reste, l'omniscience pour connaître toutes les prières qui lui sont adressées dans le monde entier, comme Jésus peut le faire et comme Dieu peut le faire, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire, l'omniscience et la toute-puissance, tous ces éléments tendent vers l'idolâtrie et intronisent une déesse de haut niveau, conçue par l'esprit humain égaré, à côté du Sauveur, pour amoindrir, pour diminuer ou encore effacer la Seigneurie de Jésus. Et ce matin, je proclame que Jésus est Sauveur, qu'il est le Messie, et qu'il est le Roi des Rois, et qu'il est au-dessus de tous, il est en tous. Que Jésus est Dieu. Ça, c'est important. Vous savez, on parle de toute cette conception de dévotion. J'ai eu l'occasion de faire un voyage en Turquie, c'est un pays musulman, hein. Et dans le parcours touristique, vous savez ce qu'on nous a emmené voir? La maison de Marie à Éphèse. Et un pape avait déjà visité. Hein. Mais c'est pour dire que dans au cœur même de l'islam, eh bien Marie a aussi sa place. Elle a été diffusée un petit peu dans tout le... C'est incroyable. Alors quel stupeur. Quand on nous a dit, voilà, on vous emmène en excursion, nous allons avoir un site, c'est le Petit Lourdes de l'Asie. Alors on s'est dit, c'est quand même pas vrai, parce que bon, déjà, ce soit le monde chrétien, bon, mais que dans le monde islamique, il y ait cela. Alors bon, la visite a été un petit peu... Mais bon, toujours est-il que c'est quand même assez étonnant tout ça. Parce que Pierre dira formellement, et je finis, Pierre dira formellement, c'est dans Actes, et je voudrais quand même tourner la page, parce qu'elle vous le semble, je pourrais la réciter de mémoire, mais je voudrais quand même la donner, simplement chapitre 4, verset 12, quand il est dit ceci, c'est un très beau texte qui affirme ce que nous disons, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, à savoir le nom de Jésus-Christ. » Je sais que ce genre de discours était quelque chose de très très fréquent au moment de la réforme. Prenez des risques, hein, les hommes de l'époque. Hein. Et aujourd'hui, je crois que dans notre 21e siècle, il faut aussi prêcher cela. Encore une fois, j'insiste, en respectant les hommes. Et la doctrine, et les doctrines qui ne sont pas bibliques et évangéliques, qui ne sont pas dans l'esprit, alors à ce moment-là, il faut dire que ce n'est pas ça. Il faut dire que ce n'est plus que, encore moins que ça. Eh bien, c'est un mensonge qui contredit la vérité de Dieu. Et avec des conséquences, parce qu'il s'agit non pas d'une bénédiction temporelle, mais d'une vocation et d'un appel pour l'éternité. Et c'est beaucoup plus grave que cela. Alors le reste, et le reste concernant le culte marial, c'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure dans notre passage, et je le relis une dernière fois, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent » ils retiennent la vérité captive. Pesez le sens des mots, car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Il leur a montré à travers l'immensité de sa création, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Il l'a montré à travers la révélation de l'Écriture. Il l'a montré en attestant par le Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, pas dans l'erreur. Alors, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est terrible lorsque nous disons cela, au regard de notre méditation. Se vantant d'être sage, d'être saint, d'être pur, d'être plus spirituel que les autres, c'est moi qui l'ajoute, hein, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en toutes sortes de choses. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont vénéré et ils ont adoré la créature. Cette colère divine, et je finis, cette colère divine sur ceux qui ont commis cette impiété, parce que l'impiété, c'est quelque chose de très caractérisé, c'est connaître la vérité et la détourner. Autre chose. Donc, vérité captive. On la sait, on la garde, et on en met une fausse à la place. C'est ça l'impiété. Avec tous les aspects extérieurs, d'une forme de christianisme, ou d'une forme d'adoration, ou d'une forme de dévotion rendue à Dieu. Alors cette colère divine sur ceux qui auront été les auteurs et les promoteurs de détournement de la vérité, ceux qui auront été les propagateurs de demi-vérités et de faux en écriture, et usage de faux en écriture sainte. Alors imaginez-vous, frères et sœurs, que nous avons besoin de rester et de garder la parole de Dieu dans son intégrité, et de garder au fond de notre cœur, eh bien, ce sauveur que Dieu nous a donné, ce salut qu'il nous a donné, et de croire que sa parole, eh bien, c'est ce qui nous permet d'aller au ciel, et que cette parole nous a été donnée non pas pour que nous la détournions, que nous en tournions le sens, mais qu'elle puisse être éclairée par le Saint-Esprit, dont Dieu nous a revêtus, et non seulement pour nous-mêmes, mais ramener les hommes dans la vérité de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Merci, on va prier simplement.